Chapitre 62.
Nicolas regarda le seigneur Rale retourner vers son camp, après avoir murmuré une inutile prière à ses fichus esprits du bien. Qu'il était triste de savoir que cet homme allait bientôt mourir. Pauvre seigneur Rale, mais au moins il serait bientôt avec les esprits dans le royaume des morts dominé par le gardien. Le chapardeur adorait ce jeu. Le seigneur Rale était si malheureux, si perdu. Nicolas aurait bien prolongé la partie, mais la fin approchait inexorablement. Désolant, vraiment. En un sens, les choses seraient encore plus drôles après la mort de ce pauvre crétin. Jagang pensait que ce minable était plein de ressources.
« Ne le sous-estime pas !»
avait-il dit à Nicolas. Jagang n'était peut-être pas de taille à s'opposer au seigneur Rale, mais le chapardeur, lui, n'en aurait fait qu'une bouchée. Le sorcier éprouvait une profonde extase à la seule idée que le sourcier de malheur serait bientôt mort. Le spectacle allait valoir le déplacement. La fin en apothéose d'une vie peu ordinaire. Nicolas avait l'intention de ne pas rater une seconde du dernier acte de cette tragédie. Il imaginait les amis du seigneur Rale, en larmes, regarder la vie s'enfuir impitoyablement de lui. En toute logique, il se consolerait en pensant que leur héros, après un pénible séjour dans cette vallée de larmes, s'envolait pour un monde meilleur. Le rideau était sur le point de tomber. Nicolas adorait la fin de ce drame, tellement qu'il était pressé d'y assister. Haïr la vie et vivre pour la haine. Comme le seigneur Rale lui-même, Nicolas se demanda qui gagnerait la course, le poison ou le don. Le pronostic était difficile, car la situation fluctuait sans cesse. Parfois les migraines étaient si douloureuses qu'on pouvait les donner largement favorites. À d'autres occasions, le poison forçait presque le sourcier à rendre les armes. Une belle compétition en tout cas, et dont on ne connaîtrait pas l'issue avant la dernière seconde de la partie. Quel délicieux suspense! Nicolas misait sur le don. Le poison n'était pas trop mal, bien entendu, mais il serait beaucoup plus intéressant de voir un grand sorcier, le premier de son genre depuis 3000 ans, succomber à son propre pouvoir. Une nouvelle victime des ambitions démesurées, en quelque sorte. Une fin morale et fascinante à une héroïque saga. Et il n'y avait plus longtemps à attendre, plus longtemps du tout. Nicolas s'épiait presque en permanence, parce qu'il ne voulait pas rater un seul délectable détail de cette affaire. Avec l'esprit de la délicieuse épouse du sourcier à ses côtés, comme en ce moment, Nicolas avait l'impression de faire partie de la famille, un lointain mais fidèle cousin qui guettait la chute tragique du héros. Nicolas trouvait juste que la mère inquisitrice ne manque pas non plus une miette du spectacle. Alors qu'elle regardait en même temps que le chapardeur, elle ne pouvait pas ne pas voir la détresse du pauvre seigneur Rale tandis qu'il rentrait dans le camp. Nicolas savourait le désespoir de Calanne. Pour le moment, il ne lui infligeait pas d'autres formes de souffrance, mais ça changerait bientôt, et il aurait tout le temps du monde pour découvrir son seuil de résistance à la douleur. Les combattants réunis autour du feu relevèrent la tête dès qu'ils aperçurent leur chef. Nicolas aussi regarda, fasciné, le maître de l'Empire d'Aran venir se camper près des flammes. Ainsi auréolé, sa silhouette évoquait déjà celle d'un esprit en partance pour les mystérieuses contrées de la mort.
« J'ai un plan, » annonça le seigneur Rale à ses hommes. « Je sais comment attaquer les fortifications. »
Les oreilles de Nicolas frémirent. Que racontait ce crétin?
Nous attaquerons dès que le soleil apparaîtra au-dessus des montagnes. Nous viendrons de l'est, et les gardes ne nous verront pas, car ils auront la lumière du levant dans les yeux. Du coup, ils préféreront guetter dans une autre direction.
Une bonne idée,
dit un des combattants.
Donc, nous nous infiltrerons dans le camp ennemi. Ce ne sera pas vraiment une attaque.
Au contraire, mon ami, cet assaut leur fera tourner la tête, ils n'auront jamais vu une attaque pareille.
Que mijotait le seigneur Rale? C'était vraiment étrange. Nicolas regardait, cherchant à comprendre. Le sourcier s'infiltrerait d'abord dans le camp, puis lancerait son attaque. Comment espérait-il donner le tournis aux défenseurs? Décidément, ce fou était fascinant. Nicolas s'approcha davantage pour ne pas perdre une miette du discours de son adversaire.
Vous serez tous impliqués dans l'attaque, mes amis. Pendant que vous fondrez sur le pont-levis, dès l'aube, je m'introduirai dans le camp. Mais votre rôle ne consistera pas seulement à me fournir une diversion, loin de là. Vous aurez une importance que nos ennemis n'imaginent pas.
La partie battait son plein, et Nicolas écoutait avec une fascination croissante. Il adorait jouer, surtout quand il connaissait toutes les règles et était en mesure de les modifier à sa guise. Demain serait un jour glorieux, vraiment.
« Seigneur Hall,
intervint le grand type nommé Tom,
« comment franchirons-nous le pont-levis s'il est à la fois solide et bien défendu ?»
Nicolas n'avait pas pensé à ça. Que c'était bizarre.
Apparemment, un élément capital du plan de Richard était bancal.
« C'est toute la beauté de la chose,
répondit le sourcier.
J'ai trouvé la solution et je parie qu'elle va rudement vous surprendre. »
Il avait trouvé la solution, sans blague.
Nicolas était anxieux de savoir quel truc pouvait avoir une chance de sauver un plan mal ficelé.
Mais le seigneur Rall s'étira et bâilla.
« Je suis épuisé,
dit-il, incapable de tenir debout.
Avant de tout vous expliquer, il me faut un peu de repos. C'est compliqué, donc il vaut mieux que j'aie les idées claires. Réveillez-moi 2 heures avant l'aube et je vous dirai tout. 2 heures avant l'aube,
répéta Tom.
C'est bien compris.
Nicolas aurait volontiers hurlé de rage. Il voulait savoir maintenant, tout connaître sur le plan fabuleux de son adversaire.
Le seigneur Hall fit un signe à Kara, sa délicieuse garde du corps et à quelques hommes.
Pourquoi ne venez-vous pas dormir un peu pendant que les autres finissent de manger?
Le petit groupe s'éloigna.
Jensen,
dit le seigneur Hall, se retournant,
garde Betty avec toi. J'ai besoin de dormir et je ne veux pas que son odeur me réveille.
Est-ce que je viendrai avec vous demain, Richard?
Demanda la fille rousse.
Oui, tu as un rôle important dans mon plan.
Le sourcier bâilla de nouveau.
Mais je t'expliquerai à mon réveil. Surtout n'oublie pas. Tom, 2 heures avant l'aube.
Je vous réveillerai moi-même, seigneur.
Nicolas serait là aussi, pour entendre la suite du plan de son ennemi. Il bouillait déjà d'impatience et il serait là assez tôt pour ne pas perdre un mot du discours de Richard Rall. Ensuite, il préparerait une petite surprise à ces imbéciles. Au fond, ce ne serait peut-être ni le don ni le poison qui tuerait le seigneur Rall, parce que Nicolas s'en chargerait avant.
Son esprit étant prisonnier du chapardeur, Callan n'avait rien pu faire, à part espionner avec lui. Elle n'avait pas été en mesure de répondre à la question désespérée de son mari, ni de pleurer pour lui quand elle l'avait vu si abattu. Elle aurait tant donné pour le serrer dans ses bras, le rassurer, apaiser sa douleur. Il n'en avait plus pour longtemps, c'était visible. Et le voir mourir à petit feu se révélait insupportable.
Callan l'avait vu pleurer. Elle l'avait entendu dire à quel point il avait besoin d'elle. Et elle n'avait rien pu faire.
L'inquisitrice ne s'était jamais sentie si seule et glacée de sa vie. Elle détestait être ainsi à la dérive et brûlait d'envie de retourner dans son corps. Cette enveloppe de chair attendait dans une pièce au cœur du camp fortifié. Celle de Nicolas était au même endroit. Si elle avait pu retourner dans cette salle. Mais c'était impossible. Et elle n'avait aucun moyen non plus de prévenir Richard que Nicolas savait tout de son plan.